Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. Vous êtes sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h aujourd'hui avec vous au 3216 et sur l'application RMC rubrique Direct Studio. N'hésitez surtout pas à nous envoyer plein de messages. Et c'est Thibaut Texer qui se fera un plaisir de les relayer. Salut Thibaut.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Autour de la table aujourd'hui, le militant associatif Pierre-Edouard Magnan. Salut Pierre-Edouard.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Je remarque que vous avez mis un pull. C'est tendance.
Oui, mais j'ai pas encore mis le col roulé, mais...
Mais ça ne saurait tarder.
Mais ici, ça va.
Notre féministe très engagée, Fatima Bellomar. Salut Fatima.
Bonjour. Donc, je vous salue depuis cette journée internationale de défense du droit à l'avortement, puisqu'on est le 28 septembre.
Et c'est bien de le rappeler, Fatima. Et puis enfin, notre journaliste maison, Fred Hermel. Salut Fred.
Bonjour Estelle, bonjour les amis.
Allez, au sommaire d'Estelle Midi. Aujourd'hui, on va parler des députés LFI et PS qui ne refusent de jouer avec des députés RN un match de foot au sein de l'équipe de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça vous semble logique? On en débat dans un instant avec vous au 3216. À midi et demi, des boulangers qui ferment à cause de la hausse des prix de l'énergie. L'État doit-il aider chez les petits artisans? 13h, Bruno Le Maire qui pose en pull sur Twitter pour donner l'exemple aux Français. Est-ce que c'est ridicule? Là encore, on attend vos avis au 3216. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. À 14h, une famille sur cinq en France est une famille nombreuse avec trois enfants et plus. Mais alors, avoir une famille nombreuse, est-ce l'enfer ou le paradis? On attend vos retours d'expérience, vos témoignages sur l'appli RMC rubrique Direct Studio. Je ne résiste pas au plaisir de vous teaser. RMC s'engage pour vous aujourd'hui avec une magnifique histoire. Un wedding planner qui disparaît avant un mariage, mais sauf qu'il disparaît avec la compte et sans avoir rien fait. Du coup, un couple est en galère et on va tenter de les aider avec Amélie Rosic. Et puis... toujours un très très beau cadeau à gagner sur RMC, Thibaut.
Eh oui, on vous envoie à la Coupe du Monde. RMC vous envoie à la Coupe du Monde pour assister au match Tunisie-France le 30 novembre prochain au Qatar. Transport, hébergement et vos places pour le match, tout est à nos frais. Vous pourrez aussi rencontrer l'équipe de RMC présente sur place. Pour cela, inscrivez-vous tout de suite sur RMC au 732-16. Vous tapez RMC au 732-16. Le gagnant sera à l'antenne vendredi.
RMC, Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec le refus du jour. C'est celui des députés LFI et PS de jouer au foot avec des députés RN dans l'équipe de l'Assemblée nationale. C'était au profit d'une association ce match et Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a réagi ce matin à ce boycott. Écoutez.
Le match aura lieu. Enfin, s'il y a ni les députés Renaissance, ni les députés LFI, ni les députés PS, bon, il va rester peut-être quelques LR, si tant est qu'il y ait des joueurs de foot chez LR, et députés du Rassemblement National. Ce que je veux dire, c'est que ça en dit long sur ces gens. En réalité, c'est la haine tout le temps, partout, le combat tout le temps, partout. Il n'y a pas un espace où ils peuvent admettre que, eh bien, nous sommes des députés, on joue contre d'ailleurs des équipes étrangères qui vont nous regarder comme des, en nous prenant pour des pignoufs, hein. Car dans l'ensemble des pays européens, il y a des équipes parlementaires avec des députés qui, par définition, pensent pas la même chose et qui jouent dans la même équipe.
Alors Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, recommande également à ses députés de boycotter ce match de foot, hein, Thibaut.
La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale emboîte donc le pas aux écologistes insoumis et socialistes qui, pour justifier leur retrait, dénoncent la banalisation de l'extrême droite. Elle recommande donc à ses députés de ne pas jouer ce soir aux côtés des élus du Rassemblement national face à d'anciens joueurs internationaux. Un match qui donnera lieu à une photo d'équipe reprenant la formule « Nous portons le même maillot », explique Aurore Berger dans un message destiné aux élus de la majorité et d'ajouter, je cite, ce n'est pas le cas, nous jouons pas dans la même équipe, ni extrême droite, ni extrême gauche. Elle reconnaît tout de même que le choix des Français, elle explique que la majorité choisit ceux avec qui elle travaille, négocie et forme une équipe. Un chemin que rejoint Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, expliquait ce matin qu'il n'aurait pas joué ce match s'il avait été député, qui a la légitimité de dire quel serait le camp du bien ou le camp du mal. C'est ce que déclare ce matin sur RMC le capitaine de cette équipe de foot, Karl Olive, député de la majorité, qui maintient sa participation. Il dénonce le diktat imposé par la France insoumise, favorisant la montée de l'extrême droite. Pour rappel, cette équipe de l'Assemblée nationale a été créée en 2014 pour transmettre un message positif via le football et montrer un autre visage de la politique. Le match de ce soir doit se tenir au profit de l'association e-enfance luttant contre le cyberharcèlement.
Pierre-Édouard Magnan, est-ce que vous comprenez la position des députés LFI, PS et celle d'Aurore Berger?
Je la comprends parce qu'elle ne m'étonne pas. C'est-à-dire que, imagine-t-on deux secondes, Louis Boyard faire une passe à Karl Olive, qui lui-même fera une passe à Sébastien Chenu, qui marque un but, et les trois se sautent dans les bras.
C'est que dans une équipe de foot, tout le monde ne s'aime pas forcément.
Non, alors, ma pratique du sport fait que j'aurais peu de... Je ne pourrais pas vous citer l'expérience, mais je veux dire, on a du mal à l'imaginer. Ça aurait d'ailleurs fait la une des journaux. Et ces députés, notamment, je prends l'exemple de Louis Boyard, qui ne se sentent pas personnellement visés, hein, mais je veux dire... C'est pas imaginable. Alors après, tout le problème, c'est que, notamment la gauche, et même Renaissance s'y met, veulent à la fois, ne peuvent pas contester l'élection de 89 députés du Rassemblement national qui ont été élus de manière conforme aux règles et donc dont l'élection ne peut pas être contestée. Ils sont députés de la République, que ça plaise ou non. Mais dans le même temps, ils restent classés comme un parti d'extrême droite et la lutte contre l'extrême droite, vue en tout cas de la gauche, aussi de Renaissance, n'est pas qu'un combat partisans de on est candidats les uns contre les autres, mais est un combat idéologique. Et donc, du coup, ils sont évidemment, ils ne peuvent pas y aller. Après, d'un point de vue tactique, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Non, mais je me mets de leur point de vue. Il n'y a en fait pas de bonne solution. Ou ils n'y vont pas, et on a le débat, ils sont quand même un peu couillons. Marine Le Pen, j'aime bien ces vieux mots. Mais s'ils y allaient, ils se seraient retrouvés en disant comment je saute dans les bras d'un mec que je considère comme un fasciste. Parce que c'est, enfin, je me mets dans leur positionnement. Alors après, la position de Renaissance, c'est qu'il me surprend plus que la position de la France Insoumise qui entraîne derrière la position de la NUPES. Donc voilà, après...
C'est pas tout le monde hein, chez Renaissance, hein. C'est Aurore Berger
qui demande au début.
Alors Olivier Véran a dit que s'il avait joué au foot, il n'aurait pas participé à ce match, mais vous avez Karl Olive qui est député de
la majorité présidentielle d'ailleurs, pour l'anecdote. Donc voilà, j'allais dire, c'est le genre de sujet où tant qu'on considère qu'un parti est sorti du spectre républicain, après on peut débattre de savoir si le Rassemblement national est ou non dans le spectre républicain démocratique.
C'est un parti légal, on est tout à fait d'accord.
Mais il y a une partie de la classe politique qui considère que ça n'est pas le cas, d'autres qui considèrent que oui. Et du coup, évidemment, quand ils ont monté cette équipe, le vrai sujet, c'est que personne n'avait jamais imaginé que sous la 5e République, à ce moment du scrutin, le Rassemblement national pourrait obtenir un tel groupe. Personne ne l'avait imaginé, donc personne ne l'avait anticipé. Sinon, je pense que cette équipe de foot n'aurait jamais été créée.
Fred Hermel, est-ce que finalement on fait passer le RN pour des victimes en faisant ça?
Ils sont en train de préparer l'autoroute pour l'élection de Marine Le Pen dans 5 ans. Ça, c'est évident, parce que là, encore une fois, la victime, c'est le RN. Et finalement, les gens qui... Je vous rappelle qu'il y a quand même 13 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. 4 millions qui ont voté au deuxième tour des législatives pour élire ces 89 députés. De toute façon, tout à fait légal. Donc, c'est ridicule. Puis, vous savez... Du temps de au Moyen-Âge, il y avait des bouffons du roi. Maintenant, on a des bouffons de la République. Les premiers étaient un peu drôles, ceux-là sont pathétiques. Et ils ne connaissent pas du tout la réalité du pays.
Alors, je pense que vous parlez de la NUPES, mais il n'y a pas que la NUPES.
Tous ceux qui refusent.
Il y a le PS et
certains de Renaissance. Ces députés qui refusent de jouer avec des députés élus du Rassemblement National prennent vraiment les gens pour des cons. Parce que vous savez, pour avoir l'occasion d'aller souvent à l'Assemblée, entre eux, ils bouffent entre eux, ils prennent des verres, ils discutent, ils se tutoient.
Mais ça ne se voit pas.
Mais ça se voit pas. Bah oui, mais faut pas être hypocrite.
Non, mais le problème, c'est la photo. Effectivement, moi, je peux comprendre que les députés aient pas envie d'être sur la photo avec marqué on porte tous le même maillot, avec des gens de bords politiques différents. Jouer au foot, ça, j'ai du mal à comprendre, mais la photo peut poser problème. Et dans ces cas-là, ils avaient qu'à boycotter la photo.
C'est
l'affichage qui peut poser problème.
Qu'est-ce que c'est que la France? La France, c'est 18 000 clubs amateurs. Vous savez que tous les dimanches, il y a 2 millions de Français qui jouent au foot. 2 millions? Il y a 2 millions de gens qui sont licenciés à la fédération. Et dans ces équipes, il y a des gens du Rassemblement National, il y a des gens qui votent
LFI, etc.
Mais si, ils sont publics, ils font des photos, ils font des calendriers.
Ils ne sont pas représentants du peuple.
Bravo Estelle, vous venez exactement de signaler. Ces députés sont supposés être les représentants du peuple. Mais ils ne représentent pas le peuple parce que le peuple se mélange, lui. Le peuple fait du foot ensemble et ça ne pose aucun problème. Et vous savez ce qui est ridicule? Il y a un député d'hiver gauche, donc élu à travers l'étiquette de la NUP, qui a fait tout une déclaration sur Twitter en disant je comme il y a des députés du Front National, du Rassemblement National, je ne vais pas participer à cette rencontre. Il n'était même pas inscrit. Ce Tartuffe, il n'était pas inscrit. Karl Olive a publié la liste des gens qui étaient inscrits. Il ne savait peut-être même pas qu'il y avait ça. Donc il a voulu se mettre dans la vague par pur électoralisme lamentable. Donc ce sont des Tartuffes et ils font du mal à la République et ils font du bien à l'élection prochaine de Marine Le Pen.
Enfin, ça, c'est pas encore fait quand même.
Ah, ben oui, mais alors, la faire passer pour la victime, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est une erreur politique pour vous, Fatima Bendomar, où en fait les députés ont raison de se battre contre le RN?
Pour moi, il y a deux choses. Il y a le débat pour savoir si le Rassemblement National est dans le spectre, on va dire, du champ républicain. Et ce que je trouve toujours très étonnant dans le débat français, c'est que c'est cette espèce de deux consensus contradictoires. En général, d'ailleurs, avant le premier tour, on dit, mais attendez, n'importe quel parti peut se présenter, ce sont des partis légaux. Et dès qu'on est dans un second tour, tête-tête avec le Rassemblement National, tout le discours politique, mais aussi médiatique, ça devient, attendez, il faut faire face, il faut faire barrage à l'extrême droite. Comment la NUPES, vous n'appelez pas à voter Macron comme l'extrême droite? Donc on est toujours dans ce paradoxe de à une heure près, de considérer avant qu'il n'y a pas de problème avec la Rassemblement National et de rameuter au second tour en disant il faut quand même faire barrage contre le Front National ou le Rassemblement National. Et d'ailleurs, je remarque que c'est quand il y a des élections, notamment locales, que les journalistes vont faire des enquêtes sur tous les candidats du Rassemblement National qui sont sur les listes, vont chiner, voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux et se rendre compte, évidemment, que bien souvent, il y a des horreurs. Et d'ailleurs, ils font des petites vidéos demander à Marine Le Pen, vous assumez quand même d'avoir ce candidat sur votre liste. En général, il les purge à la dernière minute. Moi, je trouve que effectivement, ça va être difficile. Ça va rouiller, ça va être impopulaire, mais il va falloir remonter sur le cheval de lutter à contre-courant, à contre-torrent de la dédiabolisation de l'extrême droite et se rendre compte vraiment qu'il y a un double don't look up. Là, ce qui va se passer dans les décennies à venir, il y a la crise écologique qui va provoquer d'énormes crises de migration et de déplacement des populations. Et en même temps, on a ces crises qui font monter aussi l'extrême droite.
On s'égare un peu là.
Et qui font en sorte que peut-être que le grand enjeu qui va se passer à la deuxième moitié, ça va être l'histoire du tri de l'humanité. Donc il faut dès maintenant rentrer dans un système de résistance à ça. Il faut toujours garder en tête que l'extrême droite qui est derrière le pouvoir qui y arrive, c'est jamais le fait d'un seul programme, d'une seule partie. Voilà, c'est un processus politique très long qui va s'auto-alimenter, qui va commencer à contaminer toute l'échiquier politique.
Il faut les boycotter, alors. Ils ont raison de boycotter.
Je pense que là, ça va être impopulaire, mais qu'il faut... il faut assumer et multiplier ces actions symboliques et mener à la fois la bataille idéologique sur le fait que non, on se mélange pas avec l'extrême droite et évidemment argumenter sur le fond. Mais si on continue à dire, c'est pas grave de jouer avec eux,
députés.
C'est pas grave qu'ils soient aussi surreprésentés dans les médias, etc. Et de fait, on ne fait jamais ce vrai barrage républicain.
Alors, on est avec Sébastien Chenu, qui est député RN du Nord. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce débat. On parle du boycott donc des députés LFI, PS et Aurore Berger, qui appelle également les députés Renaissance à boycotter ce match avec le RN. Quel est votre sentiment ce matin ?
Écoutez, la première chose d'abord, c'est que tout ça me donne un sourire navré. Quand je vois la gauche qui, depuis la rentrée, entre l'affaire Quatennens, le barbecue et aujourd'hui le football, tombe dans ce qui n'est plus de la politique.
C'est pas tout à fait sur le même plan quand même.
Mais ils sont dans des débats qui sont très éloignés des préoccupations des Français. On se dit qu'effectivement, ces gens-là ne sont pas prêts de revenir au pouvoir, et tant mieux, parce qu'ils sont tellement loin des préoccupations des Français qu'il vaut mieux les laisser dans leur petite condamnation ad hominem, etc. Je note aussi que l'argument de la diabolisation, on voudrait diaboliser, la gauche voudrait diaboliser, en refusant de jouer avec le RN au foot, voudrait diaboliser le Rassemblement National. D'abord, c'est pas à eux de fixer les limites, la boussole des débats. C'est pas à eux de dire qui a le droit de parler, qui a le droit de jouer.
Mais ils ont le droit, eux, de dire « je joue pas s'il y a le RN », ça c'est possible.
Le problème, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Je vous rappelle que Alexis Corbière jouait au rugby avec Louis Alliot l'année dernière, lors de la précédente législature. Donc,
Valeurs de l'Ovalie, ça c'est différent.
Oui, non, c'est les valeurs du sport. Les valeurs du sport, c'est celles qui dépassent, elles sont universalistes, elles dépassent justement les opinions. Mais ça montre que ces gens sont vraiment sectaires. Qu'en fait, le sectarisme, les discriminations pour des opinions politiques, c'est eux qui portent tout ça. Ce sont eux qui veulent éloigner, discriminer, enfermer, exclure des gens qui pensent différemment et qui, en plus, sont d'ailleurs soutenus par des millions de Français.
Oui, mais Sébastien Chenu, en vrai, là on nous a parlé du slogan de la photo. Pour vous, ça aurait été du pain béni. Voir des députés RN sur une photo avec des députés Renaissance, des députés NUPS et des députés PS avec marqué tous sous le même maillot, etc. Pour vous, c'était formidable. C'est-à-dire que derrière, vous seriez servi de cette photo en disant, vous voyez, on est un parti comme les autres.
Mais madame, non seulement nous sommes un parti, non pas comme les autres, parce que nous ne voulons pas leur ressembler, mais nous sommes un parti parfaitement républicain. Non, on n'a pas envie de ressembler, non merci, à la LFI, à la NUPES, etc., ou à ceux qui ont abîmé le pays pendant 30 ans. Non, ça, c'est sûr qu'on n'a pas envie de leur ressembler. Mais tout ça a déjà existé. Il y a la photo des rugbymen, Alexis Corbière, bras dessus, en maillot, avec Louis Alliot. Il y a une lettre de félicitations du président Macron à Louis Alliot pour avoir participé et gagné à des championnats de rugby. Donc ça veut dire que ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils essayent en fait d'instrumentaliser un sujet qui sincèrement est loin des préoccupations des Français pour, en ce qui concerne la NUPES, s'éloigner de l'affaire Quatennens et de l'affaire Bayou qui les torpille en ce moment. Et puis de l'autre côté, pour faire vivre un argument qui est celui de ceux qui n'en ont plus, c'est la diabolisation. Quand on n'a plus d'arguments, on dit à l'autre « Ah bah t'es un facho ». Parce qu'il n'y a plus d'arguments, ils ne savent même plus débattre sur le fond des idées, alors, si ce n'est que de lancer des anathèmes.
Alors juste, je voudrais qu'on prenne Bruno, qui nous a appelé au 3216 de Lyon et qui est directeur associatif. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC dans Estelle Midi. Alors Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, vous écoute. Est-ce que vous trouvez ça normal que des députés LFI et PS boycottent un match de foot avec le RN ?
Oui, je trouve ça tout à fait cohérent. Normal, je ne sais pas, cohérent, oui. Il y a une chose qui à mettre au crédit de Monsieur Chenu, pourtant je ne suis pas de son bord politique, mais c'est qu'effectivement, il n'y a pas de doute sur la dimension politicienne de la chose et faire passer le débat ailleurs que peut-être ce qui se passe ces derniers temps. Ceci étant, c'est un symbole. Et un symbole, c'est important. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Aurore Berger sur le fait que on peut pas faire semblant d'être des bons copains alors qu'en réalité il y a des vraies batailles politiques. Or, ce sont des gens qui représentent les Français qui sont en représentation dans ce match de foot. C'est pas une bande de copains qui vont jouer au foot.
Si, c'est l'équipe de l'Assemblée nationale sur une cause caritative. Et quand vous êtes encore une fois dans une équipe de foot, Fred Hermel parlait de foot amateur. Vous savez pas dans une équipe de foot amateur s'il y a des RN, des PS, des LFI, on joue au foot, en fait. On oublie pendant une heure et demie les appartements politiques.
Ils ne sont pas en représentation politique le dimanche après-midi. Là, ils sont en représentation. C'est une représentation politique. On est député, on représente la France. Donc, et puis surtout dans un match caritatif où il y a quand même quelque chose de signifiant. Mais il y a un truc qui est quand même intéressant dans le débat. Notamment, j'entendais une des personnes qui était avec vous, dont j'ai plus le nom, c'est le niveau du débat. C'est-à-dire qu'on positionne un débat sur quelque chose qui est quand même intéressant, la question du foot, mais la question d'un match de foot et la question de la place des uns et des autres autour de ce match de foot, c'est un petit peu secondaire, alors qu'on a des questions véritablement à poser sur l'éducation qu'apporte le foot. Moi, je le vois bien, dans un petit village là où j'habite, tout se passe bien, mais quand on voit les immenses difficultés et le fascisme et le racisme qu'il y a dans les stades de foot professionnels, quand on voit ces comportements-là, on n'entend jamais le Front National réagir, en tout cas moi je ne l'entends jamais. Et puis il faut aussi se poser d'autres types de questions qui sont à aborder sur ces questions de place du Front National, qui sont sans aucun doute plus intéressantes que
mais certes, mais ça en dit beaucoup justement le fait de boycotter le RN en dit beaucoup sur la place du RN. Vous pensez bien que s'il y avait un seul député RN, ça se trouve il pourrait jouer, mais là le fait qu'il y en ait 90, c'est certainement aussi ça devient un autre problème, Pierre-Edouard Magnan.
Ça en dit long, pardon, Pierre-Edouard, ça en dit long aussi sur l'incapacité des oppositions RN à les attaquer sur le terrain politique. Si t'en es à attaquer.
Là, c'est un match de foot.
Sur un match de foot, c'est qu'au niveau des idées, t'arrives pas à les combattre.
On est sur le terrain, on citait tout à l'heure Alexis Corbière. Là, on est sur le terrain, effectivement, d'un geste symbolique. Mais Alexis Corbière, par ailleurs, il a écrit je ne sais combien de bouquins pour analyser exactement le programme du Rassemblement National, en quoi il s'attaque aussi aux droits des couches populaires, etc. Moi, je pense que là, ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année, c'est juste une évolution de la stratégie. On s'éloigne de la stratégie dite populiste de la France insoumise et on est dans le cadre de cette coalition NUPES dans l'idée de se d'autant plus se démarquer de l'extrême droite. Mais on dépasse un peu le slogan facho pas fâché, enfin ce fameux slogan où on se trompe d'ailleurs tout le temps sur les deux mots.
C'est l'autre.
Cette expression est faite pour qu'on bute dessus de toute manière.
Qui l'a créé, c'est les filles. Donc voilà, Pierre-Edouard Magnan.
Mais oui, enfin, après, évidemment, le sujet de fond, c'est un sujet politique. J'allais dire, si on est un homme ou une femme de gauche, c'est comment la gauche a pu ne faire ce qu'elle a fait ou ne pas faire ce qu'elle n'a pas fait pour permettre effectivement qu'il y ait 80 députés RN. Et le vrai sujet de fond, il est là. Donc là, après, on est dans le domaine du symbole. Le sujet aussi, c'est si personne n'avait rien dit, est-ce qu'on en aurait parlé et finalement ça aurait été mieux parce que on l'aurait pas su. Mais le, après, sur, on peut pas le comparer, je répète, avec les matchs du dimanche après-midi. Oui, évidemment que dans un match de foot, on a tous des copains. D'abord, moi, je sais pas tout ce que les gens, tout ce que votent tous les gens que je connais. Et je suis sûr qu'il y a des tas de gens absolument sympathiques avec qui je serais très heureux de passer une soirée, même de faire un barbecue ou de manger végétarien au choix, qui par ailleurs peuvent voter Rassemblement National. Après, là, on parle d'élus, on parle aussi de médias. Le dimanche après-midi dans les campagnes, il n'y a pas les médias, il n'y a pas d'engagement. Enfin, il n'y a pas de, il y a aucune dimension symbolique. Là, il y a une dimension symbolique. Après, je répète, effectivement, tactiquement, ça peut se débattre, parce que effectivement, le RN a beau jeu. Enfin, si j'étais à la place de Monsieur Chenu, je ferais la même chose. De dire un, c'est un peu ridicule. Deux, on est un peu des victimes. Et finalement, nous, on va y aller. Et en plus, nous, on va faire le match qui a but caritatif. Mais c'est tout le problème de entre les principes et la communication.
Ouais, et tu peux aussi dire, et on
des fois,
un
on peut tenir ses principes, mais en termes de com', c'est compliqué.
La gauche a vraiment réussi quand même une prouesse en France. C'est-à-dire, si on, par exemple, on se compare avec ce qui vient de se passer en Italie, c'est-à-dire que la gauche existe encore. Normalement, le scénario classique, c'est qu'il y a la droite, puis il y a une gauche libérale, et puis elle se casse la gueule, et puis l'extrême droite arrive au pouvoir. Là, il y a eu une telle résistance, une telle organisation d'une gauche plus radicale, et qui a quand même fait près de 20%, c'est ça, au premier tour, qu'on se dit qu'on a réussi quand même à rattraper les meubles un petit peu en France.
On va prendre Gaëtan en ligne, qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Gaëtan voulait réagir dans Estelle Midi sur ce boycott des députés LFI et PS, des députés RN pour un match de foot. Est-ce que vous trouvez ça logique?
Moi, je trouve pas ça logique, personnellement. Je suis un peu déçu qu'il le boycotte. Mon cœur est plutôt à gauche. Et on est dans des temps difficiles où il faudrait se rassembler. La cause est plutôt noble, le cyberharcèlement. Et je pense que ça rassemble tous les partis politiques. Et malheureusement, là, on crée un débat pitoyable, malheureusement. Et c'est dommage qu'il n'y participe pas. Voilà, simplement.
Mais vous, Gaëtan, vous dites que vous avez le cœur à gauche, mais ça vous gênerait pas que votre député pour qui vous avez voté, par exemple, puisse jouer avec un député RN? Pour vous, c'est tout le monde est pareil, quoi, finalement, en tout cas sur un terrain de foot.
Mais en fait, faut savoir se rassembler. Non, ça me dérangerait absolument pas. Ma compagne vote à l'extrême de moi, on va dire. J'ai des amis qui pensent différemment au niveau politique, et pourtant j'ai les mêmes amis depuis 30 ans. On peut ne pas être d'accord sur plein de sujets, mais on peut se rapprocher d'autres qui sont peut-être, à mon sens, essentiels. Le cyberharcèlement, c'est quelque chose de catastrophique dans notre pays, ou même dans le monde, je pense.
Et c'est la cause pour laquelle il joue le match.
Voilà, exactement, et ça c'est le sujet. Et que la NUPES boycotte parce que le RN y participe, je trouve ça bien dommage.
Bah, ça se trouve, on va se retrouver avec que des députés RN qui vont jouer ce match.
Finalement, il faudra peut-être faire d'abord des matchs intergroupes.
Oui.
Et puis après, c'est le gagnant du match intergroupe qui va faire le match caritatif.
Mais quand tu dis intergroupe, ça veut dire que le problème, ce serait juste qu'ils ne seraient pas d'accord. Là, on a un souci par rapport à la place particulière qu'est l'extrême droite.
La place de député démocratiquement élu dans un pays démocratique qui s'appelle la France.
Après, ce que tu disais, Louis Alliot, par exemple, qui a été longtemps président du FN, en fait, il a joué au rugby avec des députés de gauche et ça n'a posé aucun problème. Mais tu le disais toi-même.
Je pense qu'on se rend compte aussi peut-être qu'il y a le faux au lac, peut-être qu'il y a eu un électrochoc avec ce qui vient de se passer.
Là, c'est à géométrie variable. C'est que le FN pesait pas, il n'y a pas de problème.
Tu disais peut-être qu'on n'aurait pas dû en faire tout un pataquès, c'est qu'on n'en aurait pas parlé. Moi, je trouve que la stratégie, par exemple, de l'extrême droite, et là où elle est payante, c'est qu'ils mettent à chaque fois les pieds dans le plat. Quelqu'un comme Zemmour, il n'a aucun problème
qui n'est pas
à débiter des tirades sexistes, racistes, parce qu'il sait que même s'il sera condamné ou quoi, ça fait évoluer.
Il a zéro député.
Des idées de l'extrême droite.
S'il y avait eu un groupe Reconquête, je pense qu'on aurait. Je vais faire une boutade, de l'Uchronie, comme on dit, l'histoire qui n'existe pas. S'il y avait eu un groupe Reconquête, je pense qu'il y aurait eu moins de sujets à jouer avec les députés RN, parce qu'on aurait eu l'épouvantail Reconquête. C'est même pas péjoratif dans ma bouche, qui est là. Et effectivement, sauf que là, aujourd'hui, à l'Assemblée, le secteur de l'extrême droite est repris par le seul Rassemblement National, puisqu'il n'y a que lui qui représente cette famille politique. Alors, on dit extrême, radical, on met l'adjectif que l'on veut. Enfin, je pourrais dire parler d'extrême droite, mais après, chacun son truc.
42% des Français au deuxième tour de la présidentielle.
Comme l'a dit Jean-Paul Belmondo dans L'As des As, j'aime citer les grands philosophes, c'est pas parce qu'une majorité de gens font une connerie que c'est pas une connerie.
C'est pas une majorité, c'est une minorité de 42%.
Bon, en tout cas, on va remercier Sébastien Chenu d'avoir été avec nous sur ce débat. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, boycotter le RN pour un match de foot. Est-ce que vous comprenez ce choix?
Score sans appel, non à 83%. Vous ne comprenez donc pas ce choix de boycott.
Ah non, c'est assez énorme. Allez, dans un instant, on parlera de ces boulangeries qui ferment. À cause de quoi? Eh bien, à cause de la flambée des prix de l'énergie. L'État doit-il sortir le chéquier pour les petits artisans? Vous nous appelez, vous réagissez au 32-16. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Oui, de retour sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est dans Estelle Midi, évidemment, avec Thibaut Texer, Pierre-Édouard Magnan, Fatima Benomar et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser, eh bien, à la fermeture du jour. C'est celle de plusieurs boulangeries dans le nord de la France. La raison, la flambée des prix de l'énergie. Et ces fermetures, Thibaut, risquent également de toucher d'autres secteurs.
Oui, une crise énergétique qui met en péril la santé financière des petits artisans. L'Union des entreprises de proximité s'alarme d'une hausse des coûts multipliés par 10 pour certains entrepreneurs, comme les garagistes ou les boulangers, au-delà des petits artisans. 300 entreprises françaises menacent de ne pas passer l'hiver et de mettre la clé sous la porte, selon le ministre délégué de l'Industrie. Des entreprises très consommatrices d'électricité ou n'ayant pas réussi à renégocier leur contrat, suivi de près par Bercy, précise Roland Lescure. Duralex en est le parfait exemple, avec une facture énergétique de 2 millions d'euros l'an dernier. Elle est estimée à 13 millions d'euros en 2022. La société de verrerie a donc décidé de mettre son four en veille à compter du mois de novembre. Ses salariés seront placés au chômage partiel. Pour lutter contre la crise énergétique, le MEDEF réclame un plafonnement des prix au niveau européen pour le gaz et l'électricité. En attendant une potentielle réponse de Bruxelles, l'exécutif précise qu'il existe un fonds d'appui visant à accompagner les entreprises dans le besoin. Les critères de cette aide devraient d'ailleurs être prolongés et allégés en 2023.
Alors l'État doit-il sortir son chéquier pour les petits artisans? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel.
Oui, c'est prioritaire, même avant les particuliers.
Parce que
parce que les particuliers vont souffrir si disparaissent les boulangers, les garagistes. Vous savez, un boulanger dans un village, c'est quasiment un service public. Donc oui, c'est urgent. C'est avant tout, pour plusieurs raisons. De par le service au quotidien qu'il apporte aux usagers et de par la structure économique, c'est-à-dire que le premier employeur de France, ce sont les très petites entreprises et les moyennes entreprises. Très petites, c'est-à-dire qu'un boulanger, il a quoi? Il y a le boulanger, il y a la serveuse, le serveur, il y a un aide-pâtissier. Voilà, c'est des petites entreprises à 2, 3, 4 personnes comme ça qui créent l'emploi en France. Donc s'ils disparaissent, c'est l'économie française qui risque de s'effondrer, en plus de ce que représente le maillage de services publics de ces commerces. Vous savez, dans un village, quand un commerce ferme, c'est un peu de la vie du village qui disparaît. Donc oui.
Et les clients qui sont pénalisés aussi,
oui. Mais oui, donc c'est pour ça, je pense que c'est prioritaire, même avant les usagers, particulier, il faut aider les commerçants et les artisans.
Fatima, vous êtes d'accord avec ça? L'État s'est trompé en voulant aider uniquement les particuliers?
Alors, il faut faire attention parce que la clientèle de ces petits commerces, c'est quand même, c'est quand même les usagers, c'est quand même les citoyens. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que, alors il faudrait qu'un économiste nous éclaire.
Je croyais que t'allais dire les riches, j'étais un peu étonnée. Ouais.
Il faudrait qu'un économiste nous dise jusqu'à quel point c'est conjoncturel ou si c'est structurel. Donc si c'est vraiment l'inflation, les prix des matières premières et l'énergie, et donc le fait qu'ils puissent plus assumer notamment les factures de gaz et d'électricité, donc eux, ils n'ont que deux choix, ou bien répercuter ça sur les prix. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus paupériser les particuliers.
Bien sûr.
Ou alors ils mettent effectivement la clé sous la porte. Donc pour moi, qu'on les aide conjoncturellement, je pense que c'est effectivement primordial. C'est quand même, c'est effectivement les commerces de proximité, c'est quelque chose, c'est ce qui fait vivre et l'économie et la sociabilité, on va dire, sur notre territoire. Maintenant, le fait qu'ils puissent pas répercuter sur les prix de vente, c'est aussi lié au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, en gros, dans des quartiers très riches, que le boulanger augmente un peu le prix de la viennoiserie ou quoi, c'est pas ça qui va, ça va être assez bénin hein, par rapport au pouvoir d'achat des personnes d'un quartier riche.
Ouais, mais le prix de la baguette, tout le monde le connaît. C'est-à-dire que si ta baguette, elle passe de 1 à 2 euros, ça va se voir quand même.
Bien sûr.
C'est pas pour ça que t'en achètes pas, mais en fait, tu vas le voir.
Je pense pas que ça aura un effet très malin dans des.
La France, c'est pas
dans les quartiers riches. Les loyers sont plus.
C'est ce que je dis.
Les loyers sont plus élevés aussi.
On est bien d'accord que c'est aussi une question de pouvoir d'achat et que si on avait accompagné, on va dire tout simplement le fait de réajuster les salaires et de préserver le pouvoir d'achat, c'est aussi un levier parce que si on sauve un système économique par le fait qu'il n'est plus viable pour ces petits commerces et que donc on leur donne des aides au-delà d'une crise conjoncturel. Là, c'est qu'il y a un problème qui ne marche plus, c'est qu'il y a un gap entre les prix et entre les personnes qui sont censées consommer.
Est-ce que l'État doit aider en priorité, je pense, ces petits artisans, Pierre-Édouard Magnan ?
Il doit aider, j'allais dire, tous les petits employeurs, évidemment, les commerçants, les artisans. Je veux dire, il faut aider mon plombier et mon boulanger.
Enfin, Duralex, c'est un gros employeur.
Duralex, on n'est plus tout à fait dans...
Et c'est une entreprise française, ça fait partie de notre.
Après, il y a un autre sujet, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, un boulanger, de toute façon, le chômage partiel, c'est pas un outil pour lui.
Non,
bah Alex a encore un outil, je dis pas que la vie est belle, mais quand on commence à avoir une certaine taille, il y a aussi des outils qui existent. Typiquement, et je pense aussi par exemple au secteur associatif, qui contrairement à ce qu'on pense, c'est pas qu'une bande de bénévoles qui font de la banque alimentaire. Grosso modo, le secteur de l'économie sociale et solidaire, dont le gros morceau sont les associations, c'est 10% de l'emploi en France.
Oui, bien sûr.
Alors ça se voit pas parce que c'est complètement vaporisé. On pourrait parler de l'aide à domicile, hein. Les aides à domicile en campagne qui passent leur temps à faire des tournées de voitures, avec des frais kilométriques, des associations qui touchent la PAC, qui s'adressent à des personnes dépendantes, ce qui sont aussi dans la même situation, c'est pas des commerçants dans la même situation, il faut évidemment les aider parce que s'ils ferment, il y a d'abord une perte économique majeure en termes et de services et d'emploi, et puis effectivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'un beau mot, mais c'est l'animation territoriale, mais ce sont des gens qui font vivre, qui animent les territoires, notamment alors, en secteur rural, c'est le mien, alors je suis évidemment le plus sensible, mais on pourrait parler de certains quartiers urbains, s'il n'y a plus un commerce dans les quartiers urbains, si c'est juste des lieux où on dort, où on travaille, c'est absolument épouvantable, avec même des conséquences en termes de sécurité,
dans lieu
sujet qu'on aime bien, exactement, mais on les transférerait par tout en centre-ville. Donc, évidemment qu'il faut les aider, ou en tout cas, il faut créer des outils. Après, le sujet de fond, évidemment, il est comme d'habitude au-dessus. C'est la régulation des prix de l'énergie, c'est le découplage du prix du gaz et de l'électricité.
Enfin,
c'est des mesures de fond, parce qu'il y a un moment où, au demeurant, c'est bien que j'aime à dire qu'en même temps, un État, on s'en fout, il ne paye jamais ses dettes, il n'en paye que les intérêts. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'inflation, il y a à nouveau des intérêts quand les États empruntent. Donc,
nous, on est obligé de payer.
Il y a un sujet. Vous, si vous achetez votre maison, vous devez rembourser votre dette. Mais un État ne rembourse jamais le capital de sa dette.
Exactement.
Historique, jamais. Il ne paye que les intérêts. Alors, jusqu'à un peu de temps, de toute façon, les intérêts étaient négatifs, ce qui fait qu'il gagnait même de l'argent en emprunt. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il y a effectivement un sujet. Et comme à un moment, on parlait, c'est où on augmente les prix qu'on vend aux consommateurs, où on répercute en diminuant son activité. Un État, il y a un moment, c'est où il va augmenter les impôts, ou alors il va baisser la protection sociale et les redistributions. Ce qui est évidemment inaudible. Donc, effectivement, il va falloir aussi prendre des mesures européennes de plus grande envergure. Au-delà de la sortie du chéquier, même si ça ne me pose aucun cas de conscience.
Le boulanger qui va mettre la clé sous la porte dans une semaine, ça...
C'est pour ça que dans l'immédiat, l'État doit effectivement intervenir parce qu'on ne peut pas fermer tous ces petits... Enfin, on ne peut pas les laisser fermer.
C'est ça.
On n'aura plus sinon que des grands groupes, on n'aura plus de services, il n'y aura plus de liens humains.
On va se plaindre qu'il y a trop de supermarchés, etc.
Mais on est d'accord.
On est avec Romain. Ça tombe bien parce que Romain, il est boulanger. Et il est boulanger à Lyon. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous n'avez pas mis la clé sous la porte, Romain, encore ?
Non, pas encore, pas du tout. Non, moi je voulais intervenir parce que en fait le prix de l'énergie, oui c'est une chose, ça fait monter les prix. Mais moi ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait depuis tout temps, en fait les prix des produits que nous on vend, en fait ne sont pas réels. En fait on n'a jamais payé les heures supplémentaires ou les heures correctement des boulangers qui travaillent. Et en fait tout ça on peut pas les répercuter parce que en fait dans la psychologie des gens. Acheter un croissant 2 euros, le vrai prix que ça devrait coûter, c'est pas possible.
C'est ce que je disais.
Et en gros, le prix de l'énergie, oui, c'est quelque chose. Mais en fait, les gens ont été habitués à acheter des choses à bas prix, sans payer, sans que, en fait, si on fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment, on parle qu'on trouve plus d'ouvriers, mais parce qu'on en a marre de pas être payé à notre juste valeur. Parce que les gens ne veulent pas acheter le prix réel des produits, quoi.
Mais Romain, enfin alors, grosso modo, une baguette aujourd'hui c'est 1 euro, on est d'accord ?
C'est pas possible.
Et c'est ce que j'allais vous dire. Alors, normalement, une baguette, on devrait la payer combien ? Le juste prix d'une baguette, c'est combien, Romain ?
Ça devrait être au moins 1,60.
Ah ouais, et vous la vendez combien, votre baguette ?
Nous, on la vend 1,60.
1,60 ? Ah mais c'est pas mal. Parce que déjà...
Oui, mais bon, il y a des gens qui le comprennent, et on fait maintenant grâce au réseau et tout ça, on essaie d'éduquer les gens. Mais combien ne sont pas prêts à mettre ce prix-là dans une baguette ? Alors que c'est le prix réel, c'est long, c'est pénible, c'est la nuit, il faut payer les gens en heure de nuit, ce qui est bien souvent n'est pas le cas en fait. Et on fait des horaires, on est payé genre 39 heures alors qu'on en fait 50.
Mais vous Romain, imaginons, là vous dites le prix d'une baguette c'est 1,60, ok. Si vous mettiez votre baguette à 2 euros par exemple, est-ce que vous pensez vraiment que vous auriez une grosse partie de votre clientèle qui n'achèterait pas de baguette chez vous ?
Je pense, oui.
Et vous en avez déjà parlé avec vos clients ?
Oui, déjà.
Et vous, là, on voit quand même qu'il y a pas mal de boulangers qui ferment parce que, justement, il y a la flambée des prix de l'énergie. Donc, comme vous le disiez, si on peut pas mettre la baguette à 2 euros et qu'en fait, elle vous coûte 2,50 euros, c'est évidemment un gros problème. Est-ce que vous, cette flambée des prix de l'énergie, vous l'avez ressentie ? Est-ce que vous avez une facture qui fait x2, x3 par rapport à l'année dernière ?
En fait, on a été assez intelligent parce que de base, on est une boulangerie bio et on était avec un fournisseur électrique bio. enfin bio quoi, et l'énergie verte. Et on a changé tout de suite qu'on a entendu les problèmes de gaz avec, avec EDF. Mmh. Et en fait, on a eu un contrat juste avant la, la hausse des prix qui nous a permis de descendre un peu la facture. Mais on va avoir quand même une hausse.
Et là, en revanche, pour la fin de l'année, c'est, ça, ça va pour vous, quoi. Vous vous dites pas, je vais remettre la, la clé sous la porte, quoi.
Non, on va pas se dire, on va mettre la clé sous la porte. Mmh. Mais voilà. Mais le problème, c'est que des, dans, moi, ce que je dis, c'est que dans la mentalité des gens ont toujours été habitués à acheter des produits moins chers que ce que ça devait être, au détriment de ceux qui le faisaient. Donc déjà, en fait, c'est, je pense qu'il faut éduquer les gens à dire que, eh ben, en fait, le prix réel des choses, c'est ça. Et voilà. Et ça réglerait déjà beaucoup de choses.
Oui, certes. Moi, je comprends ce que vous dites. Et après, évidemment, qu'une baguette de boulangerie, elle est mille fois meilleure qu'une baguette de supermarché. Mais sauf que aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même plein de gens qui peuvent pas se permettre d'acheter une baguette de 2 euros parce que ça fait. Si vous prenez une baguette par jour, vous avez 3 enfants, 2 enfants. Bon, bah, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, c'est un budget de 60 euros et à un moment, c'est quasiment impossible. Et évidemment, bien sûr que le point de vue de Romain, il est compréhensible et il est juste, mais c'est impossible à faire, Fred Hermel.
Ouais, et puis c'est vrai. Et puis en plus, Romain disait 2 euros. Il y a le côté psychologique. Ouais, voilà, 2 euros, tu dis 2 euros baguette, mais même quand t'es riche, t'as pas envie de l'acheter, quoi. C'est-à-dire que ça va.
Ça t'as pas envie. Si
mais c'est une, non, mais c'est la folie.
Je suis en train de me faire gruger.
Exactement,
quoi.
Exactement. Et je trouve le témoignage de Romain très intéressant. Je pense qu'en France, il manque d'éducation à la réalité des choses, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites en France ou pas chères. Notamment, on parle de, je digresse un peu, mais par exemple, quand on va à l'hôpital, il faudrait dire combien ça coûte réellement. On ne paye pas, et pourtant, ça coûte très cher. De payer le vrai, de dire le vrai prix de la baguette. Parce que qu'est-ce qu'ils font, les boulangers? Ceux qui font la baguette à un 10 ou à un 20, en fait, ils se rattrapent avec les à côté, les gâteaux, etc.
Ouais,
par exemple, ils vendent des sodas, des sandwichs, etc. Donc, il y a une manière d'équilibrer par rapport à ça. Mais j'aime beaucoup le témoignage de Romain. Expliquer aux Français que, voilà, il y a du travail derrière une baguette et qu'on ne paye pas le prix réel.
Vous avez des messages, hein, Thibault.
Oui, il y a Jérémy qui, lui, accuse la grande distribution, justement, pour revenir un peu dans ce débat, de casser les prix, de faire de la concurrence déloyale. Et donc, du coup, bah, les petits commerçants ne peuvent pas suivre face à ce cassage de prix.
Oui, c'est ça, parce que, quand même, Pierre-Edouard Meunier, on passe notre temps à demander au supermarché de faire un effort en disant oui, c'est pas normal. Eux, ils ont fait des bénéfices incroyables pendant le Covid. Il faut qu'ils cassent les prix. Et en même temps, on nous dit, bah, ouais, mais s'ils cassent les prix, bah, le boulanger de quartier, bah, il pourra pas vendre sa baguette 2 euros. Donc, on a l'impression qu'en fait, bah, c'est inextricable, quoi,
On est tout le temps dans les injonctions contradictoires, puisqu'on peut être en même temps un producteur, un travailleur et un consommateur dont les intérêts ne sont pas nécessairement effectivement cohérents. Mais je prenais l'exemple de l'hôpital, moi j'aime bien l'exemple de la pizza. Pourquoi on ne vend pas les pizzas 2 fois moins cher au lieu de nous dire systématiquement si vous en achetez une, on en offre une deuxième? Ce qui veut dire que donc on la paye au moins 2 fois trop cher.
Parce qu'on considère que tu manges jamais une pizza tout seul et que tu es toujours en groupe.
Oui, donc mais il y a un rapport. Oui, mais dans ce cas-là, j'en achète 2, je l'aurai pour le même prix, mais il y a le côté, au lieu de me la faire vendre, en plus la pizza est un globalement un produit particulièrement rentable. Enfin, j'ai eu un ensemble d'émissions dessus, c'est un produit.
Moins que la crêpe, mais c'est pas mal, ouais.
Mais c'est quand même pas mal en rentabilité. Mais le système même a été conçu. Si vous en achetez une, on vous en offre une autre. Ça veut donc dire qu'en fait, si vous en achetez qu'une, on vous la vend au moins 2 fois le prix, même un peu plus, ce qui est d'ailleurs normal. Alors qu'on vous la vendrait, moi, avec ces prix, j'en achète 2, je l'aurais au même prix. Et ça m'a toujours marqué. Alors, j'entends bien la démarche marketing, etc. D'ailleurs, je pense que si on voulait faire de l'éducation, il faudrait commencer par supprimer les gens qui font du marketing. Je taquine quand je dis ça, évidemment, mais il y a un vrai, sujet là-dessus. Donc, après, repayer juste le prix. Après, on en revient aussi, c'est comment on répartit la richesse dans ce pays, parce que on pourrait aussi répartir la richesse un peu différemment dans ce pays, qui fait qu'on aurait les moyens d'acheter la baguette, ce qu'elle coûte au boulanger, de créer un système économique vertueux et non pas un système économique vicieux.
Mais toujours des gens qui préféraient acheter la moins chère au supermarché.
Oui, déjà, oui, mais sauf que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est moins bonne. Tout le monde est globalement, s'il le peut, prêt à payer un peu plus cher pour avoir meilleur ou pour acheter du bio. Aujourd'hui, il y a un rapport à la proximité, au bio, à la qualité du produit. On n'est plus dans les années 80 ou 90. Il y a quand même une évolution, y compris chez les jeunes générations, mais pas que, sur qui sont des fois prêts effectivement à faire un peu plus de chemin ou à payer un peu plus. Enfin, évidemment, vraiment, faut en avoir. La réalité s'impose. Quand si on est au SMIC avec 2 enfants, il y a un moment, la réalité.
On
sait bien qu'elle est moins bonne au supermarché, mais elle est moins chère, l'emporte sur le moins bon.
Rapidement, Fatima.
Non, juste très rapidement, là, on est en train de dire depuis tout à l'heure qu'il faudrait payer le juste prix. À ce moment-là, le capitalisme s'effondrerait parce que, en général, toujours un peu plus cher, parce que là, il nous a donné un contre-exemple, mais en général, on paye toujours un peu plus cher un produit, sinon, il n'est pas rentable. C'est-à-dire que la personne.
La marge.
Il faut quand même que la personne gagne sa vie, regarde.
La marge fait partie du juste prix.
Et les petits artisans, pareil.
Et il faut que le type qui fait la baguette puisse payer ses employés.
Exactement. Alors, on vous a posé la question, l'État doit-il sortir son chéquier pour les petits artisans, Thibaut Texer?
Oui, à 78%, là aussi, score sans appel, justement, pour aider ces artisans, aider
Oui.
Oui, voilà.
Allez, dans un instant, Anthony Morel qui
l'État, parlera. L'État, c'est nous, hein, faut pas
des,
l'oublier.
Mais tout à fait. Des nouvelles technologies qui vont permettre de sauver des vies. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
1050 sur RMC, c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel. On parle nouvelles technologies, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Anthony, on va parler de ces nouvelles technologies qui sauvent des vies.
Ah oui, en toute simplicité, et notamment de défibrillateurs. Défibrillateurs, il y en a de plus en plus dans l'espace public, oui. C'est obligatoire maintenant d'ailleurs, dans tous les lieux qui accueillent du public. Oui, sauf que, il y a 80% des arrêts cardiaques qui se déroulent quand on est à la maison. Et là, il n'y a pas de défibrillateur. C'est un peu problématique. Et donc, alors, c'est une start-up française qui a eu une idée qui s'appelle LifeEase. Ils ont mis au point un défibrillateur personnel, en fait. Un truc qu'on peut installer à la maison.
Ah, c'est génial, ça.
Donc, c'est une très très bonne idée. Donc, c'est beaucoup plus petit, évidemment, qu'un défibrillateur classique. Oui. Hein, ça fait la taille d'une box internet, en gros, à peu près. Ça peut se ranger un peu partout. Quand on l'ouvre, c'est hyper simple d'utilisation. On dirait un jouet pour enfant, en fait. Donc, vous avez des petits pictogrammes, un gros bouton pour allumer. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Ensuite, vous avez.
Pas déjà fait. Appelez les secours.
Oui, voilà, ça, d'accord. Oui, okay. Bon, après, il y a toutes les instructions. Donc là, c'est marrant parce que c'est la. Non, je vais pas toucher la victime. Analyse, je vais éteindre parce que ça fait quand même beaucoup
de trucs. Ne touchez pas la victime.
Non, oui. Je ne touche personne. Il y a pas de souci. Donc, le principe, c'est que la boîte, le boîtier va vous guider, va être même capable lui-même d'analyser s'il y a besoin de faire des chocs, pas de chocs, etc. On a déjà appelé les secours entre temps et évidemment, on peut faire les premiers gestes et ça, c'est hyper important.
On peut faire les chocs avec cette machine.
On peut faire les chocs. Exactement. Bah, comme un défibrillateur classique. C'est d'accord. Exactement le même fonctionnement. Et là où c'est très malin, c'est qu'on sait que chaque seconde compte et que à chaque minute qu'on perd, on perd 10% d'espérance de vie, en gros. Donc, évidemment, là, c'est très intéressant de pouvoir l'avoir à la maison. L'autre petit avantage, c'est qu'il est connecté. Donc, il va envoyer des informations directement au constructeur. Par exemple, quand la batterie commence à baisser pour qu'il puisse venir la remettre en route.
Ce serait con d'avoir une panne de batterie alors vous faites un arrêt cardiaque.
Mais vous dites ça, mais en fait, ça arrive assez régulièrement sur ceux qui sont dans l'espace public. Donc, pour ça que c'est un aspect qui est très important. Alors après, c'est pas forcément pour tout le monde parce que ça a un prix, évidemment. Ça coûte, c'est un abonnement, c'est une trentaine d'euros par mois. Donc, c'est plutôt pour les gens qui ont déjà des problèmes cardiaques, des antécédents, etc. Mais ces technologies, c'est des choses qui peuvent sauver des vies quand même très concrètement. LifeEase, ça s'appelle LifeEaz.
Et si on n'a pas ce super défibrillateur à la maison, on fait comment?
Alors, il y a des applications. Il y a plein d'applications gratuites que je vous conseille de télécharger, notamment une application qui s'appelle Infarctus Staying Alive. Pourquoi Staying Alive, vous savez?
Ah oui, c'est parce que quand on fait un massage cardiaque, il faut que ça suive le rythme de la musique.
Exactement,
c'est ça,
voilà, le rythme de Staying Alive, c'est le rythme idéal quand on fait un massage cardiaque. Et donc cette application, alors elle géolocalise
tellement
en fait.
Tellement bien nommé cette chanson.
Ah, en plus, non, mais en plus le titre là, tout va en fait, hein, vraiment. Et donc elle va géolocaliser tous les défibrillateurs à proximité. Donc là, on voit qu'à proximité de la rédaction, il y en a pas mal. Il y en a au moins une dizaine là, dans un rayon de 50 mètres, c'est pas mal. Et surtout, vous allez pouvoir vous déclarer comme bon samaritain. C'est-à-dire que si vous connaissez les gestes de premier secours et qu'une personne appelle les pompiers ou le SAMU et qu'elle est à proximité de vous, eh bien c'est vous qui allez pouvoir intervenir en attendant que les pompiers arrivent, parce que des fois, encore une fois, chaque seconde compte. Et si vous pouvez commencer le massage cardiaque, bah vous pouvez sauver la vie de la personne, tout simplement. Donc vous recevez une alerte sur votre téléphone, vous foncez et c'est parti. Donc voilà, Staying Alive, application à télécharger gratuitement.
Ça c'est génial. Mais alors ce qui sera encore mieux, c'est de pouvoir anticiper une crise cardiaque avant qu'elle arrive.
Eh bah oui. Et alors ça, on va pouvoir y arriver. En tout cas, il y a des objets qui commencent à nous y aider. Alors on parle beaucoup des montres connectées, vous savez, qui ont toutes les fonctionnalités. Mais je sais bien, en tant qu'hypocondriaque, vous ne pouvez pas ne pas en avoir.
Non. C'est vrai.
Même si ça probablement augmente votre névrose, je me permets de vous le dire, mais enfin bon, c'est fort.
Comme vous y allez.
Mais c'est vrai.
Pourquoi névrose?
Bah, une hypochondriaque, non, mais bon.
C'est un petit souci.
Oui.
Ça n'a rien à voir.
Donc votre montre, elle va vous dire, va à l'hôpital, t'as un problème, et voilà, vous y foncez. Il y a plein de cas où les gens ont été sauvés comme ça. Et alors, il y a aussi, on commence à voir apparaître des t-shirts et des gilets, même principe, avec des petits capteurs à l'intérieur, qui vont analyser plein de choses dont vous ne vous rendez absolument pas compte, mais qui peuvent détecter un problème cardiaque et transmettre les informations à votre médecin, évidemment, si vous êtes d'accord.
Un t-shirt va transmettre des informations.
Oui, absolument, à votre smartphone et votre smartphone à votre médecin. Alors encore
je
une fois,
je préfère qu'il me dise rien à moi. Hein,
oui, bah, c'est ça. Non, mais c'est le médecin qui va vous appeler en disant. C'est votre médecin qui vous téléphone en vous disant mais votre t-shirt m'a dit que vous avez un problème cardiaque. En gros, c'est ça le principe. Hein. Alors encore une fois, c'est pour les patients qui ont déjà des problèmes cardiaques. Oui. C'est pas destiné à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde. Mmh. Mais ça fait partie en tout cas de ces technologies qui là encore peuvent prévenir les risques d'accidents cardiaques.
Bah merci beaucoup Anthony Morel pour toutes ces informations. On parle de quoi demain?
Demain on va parler de vêtements furtifs.
Pardon?
Des vêtements furtifs, des vêtements qui permettent de se cacher de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que quand vous avez des caméras,
qui veut se cacher derrière
eh ben alors, peut-être pas en France, mais par exemple en Iran, où en ce moment les autorités commencent à réfléchir à utiliser la reconnaissance faciale pour voir si les femmes sont voilées ou pas. Ça peut être très intéressant.
Ah oui, non, c'est vrai.
Voilà. Donc, peut-être qu'on en aura besoin aussi d'ici quelques années.
Pourquoi je n'espère pas. Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, et on parlera de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui affiche une nouvelle tenue. Il s'est mis en pull à col roulé sur Twitter pour donner le bon exemple aux Français. Oui, ne vous chauffez pas, mettez un pull. Est-ce que c'est ridicule? Tiens, justement, on en débat dans un instant dans Estelle Midi. On vous attend au 32-16. À tout de suite.